8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Au cœur de l'été sans école, quand l'ennui permet de gagner du temps pour soi, eh bien nous partageons avec vous des histoires et des rencontres autour de l'écriture avec cette question, comment donner le goût de l'écriture aux jeunes? À l'heure des réseaux sociaux, de l'IA créative sans fin, comment reprendre le contrôle de son imagination et de ses émotions? Quelles sont les méthodes aussi pour dépasser les appréhensions d'une jeunesse qui lit de moins en moins? Quelles sont les impacts des pratiques d'écriture lors d'ateliers collectifs sur les adolescents eux-mêmes? Les voisins et les voisines, racontez-nous aussi vos expériences avec vos élèves ou vos propres rencontres aussi avec l'écriture. Vous nous contactez surtout, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 6 11 80 41 89. Anna Mézé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, traductrice, vous animez des ateliers d'écriture au Labo des Histoires, une association qui a pour mission de promouvoir l'écriture créative auprès des jeunes de moins de 25 ans. Catiliana Bravo, bonjour.
Bonjour.
Ah, vous êtes loin de nous, hein. Vous êtes en Martinique, vous êtes la directrice de l'antenne de Martinique du Labo des Histoires. Nous serons aussi en ligne avec Steve Agansé, jeune écrivain congolais de 26 ans pour son premier roman Bahari Bora, qui a été publié aux éditions Récamier. Il a remporté d'ailleurs le prix littéraire de la vocation qui récompense chaque année un jeune romancier ou nouvelliste francophone. Et puis en fin d'émission, Le Monde des Enfants, réalisé par Charlie Dupiot et déjà presque adolescent, eh bien il raconte aujourd'hui un sentiment qu'ils connaissent bien, la honte, souvent provoquée d'ailleurs par leurs parents. Allez, vous nous appelez, on revient aux pratiques d'écriture pour les jeunes. 33 6 11 80 41 89.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Good morning, bonjour.
Salut les voisins.
Salam alaikum.
Machas violo.
Buenos dias.
A quoi va les voisins et les voisines?
Comment entrer dans l'écriture quand rien, absolument rien, ne vous prédispose à écrire? Il y a quelques jours, dans notre émission consacrée à la violence scolaire à Mayotte, eh bien, je recevais un très jeune écrivain, Agnel Djimi, 21 ans, comorien. Il vient de publier son journal, qui s'appelle « Le caillassage des bus à Mayotte ». Et il est arrivé sur ce territoire français enfant et il a découvert l'écriture par l'école.
Pour écrire, j'ai commencé depuis la classe de CM2. Parce que je ne savais pas totalement parler la langue française, donc j'avais du mal à suivre les cours, vu que je venais d'arriver. Et chaque instant, j'avais tout le temps des zéros à l'école parce que je ne comprenais pas. Le professeur ne parlait pas le schéma oral, la langue française, elle est obligatoire. Donc, il parlait que le français. Et j'avais du mal jusqu'au dernier trimestre que j'avais une très belle moyenne parce que à ce moment-là, j'avais commencé à comprendre un peu la langue française car je lisais beaucoup. Et en lisant beaucoup, j'écrivais aussi, j'avais un téléphone avec moi sur l'application Note. J'écrivais 5 à 10 lignes comme ça, ce que je rêve d'avoir plus tard, par exemple, la maison que je veux, oui. Le genre de voiture que je veux, jusqu'à ce que j'ai un ordinateur un jour, mon père qui me l'a acheté. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose. Et c'était un peu compliqué pour moi d'écrire parce que je ne savais pas quoi raconter, mais je me suis dit je vais juste me lancer et raconter mon quotidien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire jusqu'à ce que je me suis retrouvé à raconter mon parcours d'Anjouan jusqu'à Mayotte, à la traversée de la mer à Mayotte. Et aussi à raconter aussi la délinquance qui se passe sur le territoire.
Agnel Djimi, Anna Mézé, vous qui n'êtes pas de langue maternelle française, vous êtes suédo-hongroise,
oui,
langue maternelle, le suédois.
Oui, exactement.
Que vous inspire l'histoire d'Agnel Djimi, 21 ans aujourd'hui?
Bah, c'était très beau à écouter, justement, que le fait qu'il dit qu'il ne savait pas quoi écrire et après donc se servir de ses propres expériences, de voir autour de lui ce qui se passe, si vouloir dire ça et en plus donc dire ça dans une langue qui n'est pas la sienne. Je trouve ça c'est très intéressant parce que on ne dit pas forcément les mêmes choses dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, donc ça crée aussi une sorte de distance, ça peut être plus facile de dire, avoir un autre regard sur ce qu'on est en train d'écrire, donc...
Et vous écrivez en suédois ou en français maintenant?
Non, moi j'écris en français, surtout,
aujourd'hui. Ça a pris du temps?
Oui. Je suis en France depuis maintenant 20 ans, mais au début, l'écriture m'a toujours accompagnée. Au début, c'était en suédois, et après, j'ai commencé à suivre des ateliers d'écriture en France, et après, au fur et à mesure, voilà, master de création littéraire, et au fur et à mesure.
Et
voilà.
Vous avez eu envie de transmettre aussi ces pratiques d'écriture.
Tout à fait.
D'écriture collective, hein, c'est la spécificité aussi des ateliers d'écriture, c'est-à-dire qu'on partage tout de suite ce qu'on vient d'écrire.
Hein. Exactement. Ouais.
Même si le processus, on écrit tout seul. Hein.
Oui.
Un message de Léon à Abidjan. Ici, les filles lisent des livres à l'eau de rose. Elles ont plus le goût de la lecture. Pour les garçons, il faudrait des sujets intéressants sur les héros africains ou les footballeurs. Catiliana, bravo. Est-ce qu'il faut lire pour avoir envie d'écrire?
Je pense que l'exemple, pareil, du jeune Mahorais est intéressant parce que il expliquait que il lisait beaucoup. Et c'est vrai que nous, on démarre souvent les ateliers d'écriture avec un temps où l'intervenant lit des extraits, propose du coup le temps du démarrage aux participants de l'atelier de venir juste le temps de l'écoute de ces extraits, de devenir à nouveau une audience. Voilà, pour se remettre dans la position d'écouter des histoires, pour avoir envie d'écrire la sienne.
En Martinique, sur la terre d'Aimé Césaire, où en est l'écriture justement chez les jeunes, Catiliana Bravo?
Eh bien, nous ne sommes pas épargnés, je dirais, par l'intrusion des écrans partout et par cette difficulté de renouer avec l'écriture. Et du coup, le challenge est d'autant plus, est d'autant plus présent que effectivement il y a cette part d'héritage que le territoire veut conserver donc même s'il y a Aimé Césaire il y a aussi Édouard Glissant pour qui j'ai une tendresse particulière puisqu'il parle de la créolisation du monde et que sur notre territoire différentes langues se retrouvent. Et pour nous, l'atelier d'écriture, c'est aussi le lieu où ces différentes langues ont le droit de se mélanger, de se retrouver et de se redécouvrir.
Il y a peu d'ateliers d'écriture en Martinique?
Alors, on est sur une moyenne de 160 ateliers par an. Voilà. Avec à chaque fois, donc on est en atelier d'écriture collective, sur le temps scolaire, périscolaire, extrascolaire. J'interviens aussi beaucoup auprès des jeunes sous main de justice et au quartier mineur du centre pénitentiaire et à chaque fois avec cette envie en tous les cas de partager ce moment autour des lettres. Voilà.
Anna Mézé, on peut commencer à quel âge les pratiques d'écriture, vous, dans les ateliers? Vous avez aussi de très jeunes enfants. Est-ce qu'il y a finalement une forme de blocage et d'appréhension qui intervient plus tard chez les adolescents?
Je pense que oui, sûrement. Moi, ce printemps, par exemple, avec La Boue de l'Histoire, j'ai mené un projet de poésie sonore avec des maternelles, donc grande section. Et là, ils sont pas encore, ils maîtrisent pas encore l'écriture, mais ils écrivent comme ils peuvent. Et donc, on fait beaucoup à l'oral ensemble. Et après, c'est moi et l'enseignante qui écrivons ensemble aussi tout ce qu'ils disent, mais c'est sûr qu'à cet âge-là, il n'y a pas de frein, ils ont soif, ils ont envie de faire, et que ce qu'on apporte avec La Boue de l'Histoire et dans d'autres cas d'ateliers, surtout au milieu scolaire, c'est vraiment de casser aussi un peu les rythmes de... c'est pas un cours, c'est un atelier. Et donc je pense que ça, c'est important d'insister sur le fait que c'est un atelier où on expérimente, et surtout... des histoires, c'est une sorte de laboratoire où aussi on teste, on expérimente ensemble pour voir ce qui peut fonctionner, ce qui fonctionne pas, et donner cette liberté.
Mais alors vous dites c'est pas l'école, mais en même temps chez de jeunes enfants, ça, il y a aussi l'apprentissage, la découverte de nouveaux mots, ou pas forcément d'ailleurs.
Dans le cadre des ateliers,
oui, vous vous interdisez que ça ressemble à l'école finalement.
Oui, c'est aussi parce que nous on écoute. J'utilise souvent le même matière, comme disait Catiliana tout à l'heure, qu'on lit des extraits, etc. Et moi, je me sers des mêmes extraits de poésie sonore pour des plus grands comme les plus petits. C'est juste que leurs réactions sont toujours très très différentes. Et il y a des choses imagination différentes qui sortent de ça. J'ai oublié votre question.
Oui, justement, pour que ça ne ressemble pas à l'école. Oui. C'est-à-dire que les enfants découvrent l'expression de soi par l'écriture comme ils pourraient découvrir le dessin. Ouais. Tiens, on prend une boîte de crayons et on dessine. Mais c'est pas aussi facile.
Mais ils sont acteurs que, voilà, quand je mène des ateliers d'écriture au, voilà, en milieu scolaire, au périscolaire, c'est de rendre les élèves acteurs et que c'est eux qui écrivent, que c'est eux qui inventent. Et je pense que, dans l'école en France, on apprend beaucoup à réciter, surtout de la poésie.
J'allais vous poser la question. Ouais. Est-ce qu'il y a une appréhension vis-à-vis de l'écriture chez les adolescents qui serait en partie liée au système éducatif français, à la culture française?
Je pense en partie oui.
Écrasé par le poids des grands écrivains, nous sommes.
Ah, ça peut-être un peu que l'écriture est vue comme quelque chose de un peu élitiste aussi, et que avec tous ces ateliers d'écriture qui sont de plus en plus répandus, il y a beaucoup d'ateliers sur tout le territoire de France, et je dirais que ça permet aussi de rendre l'écriture, déjà que ça serait une expérience collective et pas seulement individuelle, et de voir que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a une histoire à raconter.
Catiliana Bravo, la phrase que vous entendez le plus souvent et qui en dit long sur l'appréhension des jeunes pour écrire, qu'est-ce que ça serait quand vous démarrez un atelier?
Ben en fait c'est moi madame, j'aime pas le français, ou madame j'aime pas écrire. Voilà, ce sont les deux phrases d'entame généralement de la rencontre avec les jeunes. Et du coup, vraiment, c'est à nous, je dirais, déjà de replacer le cadre. On est une association d'éducation populaire. Et donc, pour moi, c'est vraiment important qu'ils comprennent qu'on est là dans une expérimentation. On va faire.
Et on va donner la parole, si vous le voulez bien, restez avec nous, hein, bien sûr, Anna Mézé et Catiliana Bravo. On va donner la parole à un jeune écrivain qui, lui, à mon avis, ne s'est jamais posé la question « je ne sais pas quoi dire ». Restez avec nous et vous nous appelez aussi, hein, les voisins et les voisines, au 33 6 11 80 41 89. Comment donner le goût de l'écriture aux jeunes?
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins,
on n'est rien sans l'autre.
J'ai pas d'idée, je sais pas quoi dire, j'aime pas le français. Bonjour Steve Aganzé.
Bonjour madame.
Vous êtes un jeune écrivain de 26 ans, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes finaliste du concours Voix d'Afrique RFI France 24. Vous avez obtenu le prix littéraire de la vocation 2025 pour votre roman Bahari Bora, publié aux éditions Récamier, qui raconte une femme et un pays meurtri par les crimes de guerre. Ces questions-là, c'est cette petite voix qui vous murmure, j'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi dire. Vous les avez aussi parfois dans l'oreille ou elles ne vous ont jamais parlé, ces petites voix?
Bien sûr qu'elles sont toujours là, mais je crois qu'on écrit avec tout ce qui nous entoure. Parce qu'on commence d'abord par l'observation et par l'écoute. Écouter des histoires, la famille, observer les voisins, la société. Et pour moi, l'écriture s'est imposée de cette manière-là. C'était une aventure intérieure, aussi nourrie par la littérature elle-même.
Vous avez découvert l'écriture à quel âge, Steve Aganzé?
J'ai découvert l'écriture à l'âge de 16 ans, mais avant je dessinais. Et à chaque fois que je montrais mon travail, les gens me disaient « mais tu dessines bien, mais tu écris mieux ». Donc j'ai abandonné les dessins pour profiter pleinement de la puissance des mots.
Et quel est le meilleur mentor pour un jeune qui vous écoute et qui rêve d'écrire?
Le meilleur, je crois, c'est la littérature elle-même. Parce que moi, je la considère comme un fleuve tranquille, immarcissible, qui coule depuis la nuit des temps. Et chaque écrivain que j'appelle abreuveur épuise simplement sa matière. Donc une matière qui existe déjà, l'alphabet existe, les verbes, les mots. Il épuise cette matière, la transforme, apporte sa touche pour ensuite la déverser dans ce même fleuve. Comme ça, c'est une immensité... presque une nation, comme dirait Mohamed Bougarsar.
Vous avez été finaliste d'un prix, vous en avez obtenu un autre. Qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant que jeune écrivain de 26 ans, Steva Ganze? Est-ce que ça a changé votre propre regard sur votre travail littéraire ou le regard des autres sur vous-même, sur votre travail?
C'est mon propre regard qui a changé, parce que je crois que tout écrivain propose son nom ici pour qu'on la boive. Et si une étiquette sur la bouteille, sur le livre, le bandeau, peut inciter une personne à acheter le livre pour le lire, c'est parfait, mais on n'écrit pas pour les prix littéraires, parce que la seule reconnaissance qui en vaut vraiment la peine, c'est celle des lecteurs. Mmh. Or, les lecteurs, de nos jours, se montrent reconnaissants envers les livres primés. Donc, c'est une boucle. Et c'est surtout le regard change parce que, par exemple, pour le prix Voix d'Afrique, être finaliste signifie être élu par mon aîné Mbougarsar, par Anne-Sophie Stefanini, par Beata Mbiaïmérès, toutes les personnes que j'ai toujours admirées. Mmh. Et c'est encourageant, mais comme on dit, c'est une course et il faut continuer à courir, ne jamais s'arrêter parce que...
Ne jamais s'arrêter, mais continuer à courir tout de même bien seul dans votre génération, Steva Ganze. Alors, vous êtes évidemment un jeune singulier, mais vous avez un compte Instagram. C'est pas tellement votre genre, mais vous ne regrettez pas ce compte Instagram.
Non, je ne regrette pas parce que, après le prix Voix d'Afrique, convaincu toujours que l'écrivain travaille pour donner à lire le monde, parce que moi j'écris pour que l'empathie ne meure jamais. Donc j'avais pris la décision de partager mon travail sur Instagram, mes textes inédits, et c'est comme ça que mon éditrice actuelle m'a découvert.
Et vous a permis d'être publié. Vous êtes sollicité parfois pour transmettre, pour animer des ateliers d'écriture, pour donner des conseils, ou c'est quelque chose qui est trop éloigné de vos obsessions?
Avant, c'était éloigné, parce que moi-même, j'écris, j'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais assisté à un atelier d'écriture. Mais maintenant, je suis appelé ici et là, parfois par l'Institut français. Je vais dans des écoles pour parler littérature, mais je ne suis pas tellement là en tant qu'enseignant, voilà, montrer comment écrire, parce que je crois que l'écriture c'est une aventure intérieure avant tout, et nourrie par la sensibilité, parce que vivre, c'est ressentir le monde. Or, écrire un roman, c'est donner aussi, c'est toucher les sens.
Eh bien, merci en tout cas. Merci d'avoir partagé un tout petit peu de cette aventure intérieure. Nous allons continuer à nous interroger sur ce qui peut donner le goût de l'écriture, cette écriture, ce goût de l'écriture qui est venu à vous de manière quasi surnaturelle pour vous, Steva Ganze. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec vous. Votre roman Bahari Bora est publié aux éditions Récamier. Vous avez 26 ans. Merci d'avoir été en direct de Kinshasa. Bonne journée à vous. Anna Mézé, Catiliana Bravo, vous restez avec nous. Comment donner le goût de l'écriture, l'impact aussi sur la vie des jeunes et les voisins et les voisines, évidemment. Vous prenez la parole, vous racontez vos expériences au 33 6 11 80 41 89. On se retrouve juste après l'écriture poétique du labyrinthe de Feu Chatterton chez 8 milliards de voisins.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe et pêche rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie. Comme si c'était celle d'une autre. Tu te promènes seul dans ta vie. Comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le mien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe.
soit sans hâte, soit sans crainte. Reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes, seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène, seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde l'homme, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde l'homme, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde.
8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et la chanson, c'est déjà hein, prendre le goût de l'écriture, le goût d'entendre des textes, ouais, des mots, des enchaînements. Anna Mézé, vous qui animez des ateliers d'écriture pour l'association Labo des Histoires.
Ouais. Oui, tout à fait. Et il y a, moi, je n'interviens pas sur cette thématique-là, mais je sais qu'au Labo des Histoires, il y a effectivement des slameurs, des musiciens aussi qui viennent pour animer des ateliers parce que la musique, les chansons, effectivement, c'est de l'écriture aussi.
Catiliana Bravo, vous êtes la directrice de l'antenne Martinique hein, du Labo des Histoires. Et on donne la parole au standard 33 6 11 80 41 89. Marie-Jo nous appelle de Ouagadougou, Burkina Faso. Bonjour Marie-Jo.
Bonjour, oui, milieu de voisins, bonjour la fille.
Soyez la bienvenue Marie-Jo. Votre goût de l'écriture a découlé de la lecture hein, chez vous.
C'est ça, tout à fait, c'est ça.
Et ensuite, vous avez vous-même pris la plume pour écrire votre journal.
Pour écrire un journal intime au départ et ensuite de petites nouvelles que je dispatchais un peu entre moi dans la famille, à des amis, voilà.
Oui. Et vous continuez d'écrire ou pas aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'écris plutôt les chansons.
Ouais.
Voilà, parce que pour moi, écrire, c'est juste... Écrire, c'est écrire, que ce soit les nouvelles ou les chansons, voilà. Pour moi, j'écris en fonction de la thématique. Quand ça vient sous forme de nouvelles, j'écris. Quand ça vient sous forme de mélodie, j'écris, tout simplement.
Voilà. En fait, c'est ça. Après, le support vient ensuite. Hein. Mais est-ce que vous tentez de donner ce goût de l'écriture, des mots à vos enfants? Ils sont encore trop petits, trop jeunes. Vous comptez
Ils sont encore très jeunes.
Ouais.
Ils s'intéressent beaucoup à la lecture et pour moi, pour vraiment avoir cette envie d'écrire, il faut forcément lire, tout passe par la lecture. Et comme ils sont vraiment, ils aiment vraiment les petites histoires, un peu comme la plupart des enfants, je pense qu'ils vont forcément hériter de cela, de ce goût d'envie d'écrire.
Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Marie-Jo. Merci beaucoup de nous avoir appelé. On est en ligne avec Herman, qui est enseignant de français dans un lycée technique dans les environs de Yaoundé. Bonjour Herman.
Bonjour Emmanuel.
Alors Herman, vous en tant qu'enseignant de français, est-ce que vous animez des pratiques d'écriture avec vos élèves?
Oui, bien évidemment, j'anime des séances d'écriture avec les élèves. Et généralement, ça passe par j'organise des concours de poésie, des sketchs lors des journées parascolaires.
Donc des sketchs après que les élèves peuvent jouer, c'est ça, devant les autres, devant la classe?
Oui, c'est dans les podiums, donc lors des journées culturelles à l'école.
Ouais. Mais ça, c'est pas dans le programme de français. Rien ne vous y oblige, en fait, Herman.
En principe, cela rentre dans le cadre extra-pédagogique, dans les extra-curriculaires, en fait. Et c'est pour stimuler, en fait, l'aspect artistique des élèves.
Mmh. Et qu'est-ce que vous constatez dans votre pratique avec les élèves?
Oui, ce que je constate généralement, c'est qu'au début, ils sont très réticents. Mais lorsqu'on oriente les activités vers le ludique, par exemple, je peux prendre l'exemple de généralement, lorsqu'on veut que les enfants écrivent beaucoup, on leur demande pendant les classes de raconter des histoires, de parler de leur avenir. Mmh. C'est donc là où ils sont souvent enthousiastes.
Mmh. Des sujets qui les concernent.
Oui, les sujets qui les concernent, ils sont souvent plus prompts à rédiger. Mais lorsqu'il s'agit maintenant des activités plus intellectuelles, lorsqu'il faut réfléchir sur un sujet ou rédiger sur un sujet de réflexion, je ne sais pas, un sujet un peu culturel, c'est compliqué. Mais lorsqu'il s'agit de parler de soi, de ses émotions, de son enfance, c'est plus fluide chez eux, en fait.
Ouais. Et les filles, les garçons, de la même façon ?
Non, c'est pas toujours de la même façon. On a noté, puisque je suis dans le lycée technique, on a noté que les garçons ont un grand désintérêt pour ce qui concerne, là, en général, l'écriture.
Ouais.
Ils ont un très grand désintérêt. Et par contre, les filles, elles sont plus promptes à s'exprimer. Oui, c'est très facile, puisqu'elles aiment bien se confier.
Oui.
Donc, c'est très facile pour elles de faire ces exercices-là,
oui.
De participer à des sketchs et à des poèmes.
Oui. Une forme d'habitude culturelle, hein, des filles qui se confient sur leurs émotions personnelles et les garçons qui ne sont pas tellement enclins, en fait, hein, à coucher leurs émotions sur le papier. Est-ce que vous partagez ce constat ou pas, Catiliana Bravo, en Martinique ?
Oui, on voit effectivement une différenciation de rapport à l'écrit entre filles et garçons. Et c'est d'autant plus important pour nous que l'atelier soit toujours mixte dans la mesure du possible. Et vraiment de revêtir vraiment la cape, entre guillemets, de celui du passeur d'écriture. Mmh. C'est-à-dire que on doit vraiment accompagner l'écriture comme un savoir-faire qui se fait avec les autres, en espérant que cet accompagnement permette à ce savoir-faire, une fois qu'il a été vécu collectivement, eh bien, puisse continuer individuellement.
Vous restez avec nous, hein, Catiliana Bravo. Je voudrais que Léa aussi, qui nous appelle du Gabon, partage sa pratique qui date d'il y a un bon moment. Bonjour Léa, vous êtes en direct chez 8 milliards de voisins.
Bonjour. Pour ma part, quand j'avais 9 ans, j'avais un groupe de filles qui étaient déjà au collège. Ils nous ont donné le goût d'amener les écrits sur le papier en termes de cahier d'amitié. Dans ce cahier, on écrivait des mots du foyer. J'ai écrit l'histoire de ma mère et mon père. J'ai écrit les histoires d'amour et les codes du foyer. Comment résister à un homme? Comment être dur à un homme? Ne pas donner son corps facilement à un homme? C'est ce que nous, on écrivait dans ce type de cahier. Comment être une femme de valeur? Comment représenter la femme africaine qui a été avant?
Mais ces cahiers d'amitié, c'était des cahiers où tout le monde pouvait écrire dans le petit groupe d'amis là de vos copines, ou c'était des cahiers complètement individuels?
C'était individuel, mais on pouvait faire lire ça à sa meilleure copine.
Eh oui.
Mais ces cahiers étaient complétés par les dessins. Mmh. On écrivait dans les dessins, dans des fleurs, dans des voitures, dans des chaussures. Donc on dessinait d'abord et on écrivait à l'intérieur. Donc, comme les cahiers de CEP en Afrique.
Oui, oui.
Voilà. On dessinait et on écrivait.
C'est ça.
Et on coloriait les papiers ou on collait même les tissus.
C'était très visuel. Et c'est vrai que, bon, bah, tout ça, c'était à l'époque. Hein. À l'époque, quand on n'avait pas encore autant de distractions sur les smartphones, etc. Herman, est-ce que vous utilisez aussi parfois, comme ça, un support un petit peu ludique, comme vous le disiez, où il peut y avoir du dessin, quelque chose de plus visuel pour vos élèves?
Honnêtement, non, parce que on est un peu la configuration de nos écoles. L'aspect fonctionnel, c'est pas encore possible.
Oui.
Mais par contre, généralement, puisque j'ai parlé des activités culturelles, très souvent, lorsqu'on donne un thème, par exemple, lorsqu'on organise peut-être un concours, on les oriente généralement, on leur fait les gestuels, on leur fait des symboles, de manière gestuelle, en fait. Mais là, bon, peut-être un thème, une couleur, on peut leur donner une couleur, On peut utiliser aussi une image, peut-être un arbre, pour parler de la nature.
C'est ça, pour être assez directif au départ et lancer l'inspiration. Merci beaucoup Herman et merci à vous Léa. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 611 80 41 89. Animer des ateliers d'écriture, c'est quand même pas donné à tout le monde. Il faut un vrai savoir-faire, Anna Mézé. D'ailleurs, Catiliana Bravo nous le disait, au départ, ça commence par des phrases de type « je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi écrire, je n'aime pas le français », même si vos ateliers d'écriture revêtent souvent une dimension extrascolaire, voire totalement extrascolaire. Quelles sont vos techniques pour faire écrire les jeunes et pour leur donner envie de revenir, même si l'atelier n'est pas obligatoire?
C'est déjà les valoriser. Je pense que ça, c'est un premier point de montrer que l'écriture peut se faire de plein de manières différentes aussi, que l'écriture, c'est pas seulement écrire, prendre un stylo et écrire sur une feuille, et que la littérature existe de plein de manières différentes. Et donc, c'est beaucoup ça que j'essaye de montrer aussi. Mais après, comme ça a été dit par les personnes qui ont appelé, aussi que parler de soi, d'écrire à partir de son ressenti, ça peut souvent être un point de départ aussi. Je pense qu'il y a aussi un côté de donner confiance, qu'il y a beaucoup ça et que, voilà, j'ai de la chance quand je travaille avec des élèves, je suis pas enseignante justement, je suis un intervenante d'extérieur qui vient avec mon bagage et qui vient aussi avec d'autres besoins.
Et vous n'êtes pas de langue maternelle française et ça, ils l'entendent.
Oui, souvent. Après, ça dépend.
Ça change le regard qu'ils peuvent avoir aussi.
Oui, je crois. Aussi parce que souvent moi j'essaie aussi de valoriser toutes les langues parce que en France, en tout cas en région parisienne, dans chaque classe il y a tellement de langues différentes et que les profs souvent peuvent être surpris quand ils entendent ça.
Catiliana Bravo, vous signifiez le début de la séance de l'atelier d'écriture. Vous avez un petit rituel en Martinique?
Oui, c'est-à-dire que j'essaye de rapprocher l'écriture de nous. Et dans notre
de la culture créole,
culture, l'oralité, est très présente avec le conte créole, qui existe. Et donc, parfois, j'entame l'atelier d'écriture pour la rencontre avec l'intervenant, pour introduire l'intervenant avec notre onomatopée d'ouverture de conte.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites?
On lance un yécric à la salle. Et la tradition veut que la salle réponde « yécrac ». Et là, je sais que j'ai l'attention de tout le monde et ils sont dans une écoute active.
Parfois, la rencontre avec l'écriture peut être un peu compromise. Comment vous flairez votre public pour comprendre leur rapport à l'imaginaire, tout ça?
Bien, c'est une rencontre là aussi. Je vais au-devant des groupes. Parfois seul, parfois avec l'intervenant, pour justement vraiment travailler leur curiosité, parce que pour moi l'atelier d'écriture, il se fait vraiment parce qu'il y a une rencontre avec cet intervenant, parce qu'on choisit le bon intervenant pour le bon atelier, pour le bon public. Et d'ailleurs, l'étude d'impact qu'on a pu mener en 2025 sur les ateliers d'écriture au sein du labo, on a 84% de jeunes qui ont dit avoir eu du plaisir. Et vraiment, je pense que cette notion de plaisir, elle est vraiment au cœur de notre dynamique pour mener les ateliers et s'aimer.
Et au-delà du plaisir, vous avez constaté d'autres impacts?
Alors oui, l'estime de soi, bien sûr, je crois qu'on est aux alentours de 78%. Et le dernier chiffre, moi, qui m'avait marqué, c'était l'augmentation de la confiance en soi par les jeunes. Là, on avoisine les 40% et c'est vrai que ça témoigne vraiment de mécanismes, des compétences psychosociales qui, du coup, ne sont pas forcément visibles dans le cadre d'une activité comme celle-ci et puis qui, finalement, débloquent des choses à l'intérieur et utilisent des ressorts qui sont peut-être moins faciles à utiliser avec une autre activité. Pour parler précisément, en tout cas, de mon territoire, il y a aussi parfois... le poids d'être un peu écrasé. Vous faisiez référence à Aimé Césaire. Bon, voilà, il était latiniste, il était hellénophone. Ce sont vraiment des références à la culture classique qu'il maîtrisait, qu'il a pu aussi offrir. Et parfois, les jeunes ne se sentent plus légitimes de se dire qu'eux aussi peuvent faire comme. Donc, tout notre travail à nous, c'est de montrer que leur langage du quotidien peut être valorisé. On ne corrige ni la grammaire ni l'orthographe en atelier d'écriture.
Ça, c'est important.
Parce que ça peut faire partie d'une proposition artistique.
Vous ne corrigez pas la grammaire et l'orthographe, mais pourtant, Anna Mézé, les jeunes progressent dans l'écriture.
Oui, parce qu'ils prennent confiance en eux, en participant à un atelier aussi, puisqu'on valorise ce qu'ils sont en train de faire, ça stimule aussi leur imagination et leur confiance en eux.
Avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on donne la parole à une auditrice qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour maîtresse Bertie.
Bonjour.
Vous êtes enseignante de moyenne section en maternelle et vous faites des ateliers d'écriture aussi avec des plus grands. Comment ça se passe ?
Avec les plus grands et avec les plus petits.
Aussi. Et comment vous commencez ? Parce que ils savent à peine écrire.
Exact. Bon, déjà, avec les tout petits, c'est-à-dire 4-5 ans, nous commençons toujours par des dessins. Les enfants, je me suis rendu compte, expriment bien leur créativité à travers le dessin. C'est facile pour eux de dire ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils se sentent. Et on a pris donc cette habitude en classe de les laisser dessiner. Et chaque fois qu'ils dessinent, on ne s'arrête pas là. On leur demande, par exemple, Liliane, qu'est-ce que tu as dessiné? Alors, il va dire, j'ai dessiné. Il va décrire le dessin. Mmh. Et on lui pose plus de questions pour qu'il en fasse un petit discours. Et quand l'enfant parle, on écrit. Mmh. On écrit, donc ça devient une dictée à l'adulte. Mmh. On ne tient pas compte de la forme, de ce qui vient avant ou après. Tout ce qu'il dit, on note.
Ça devient un texte dont il est l'auteur, même s'il n'a pas encore les capacités d'écrire.
Exact. Il en est l'auteur. Et à la fin de la semaine, on va peut-être lui prendre ses quatre dessins. On s'arrange autour de ces dessins-là. On construit toute une histoire. Et cette histoire, lui-même, il la raconte. Voilà, j'ai dessiné, j'allais à l'école, j'ai dessiné ici, j'avais un sac à dos. Il fait une petite histoire. Mmh. Et moi, ce qui m'a marqué là-dessus, c'est que il continue même à la maison. Quand il rentre à la maison avec les dessins, il la raconte.
Oui.
Donc, pour les parents qui veulent pour maintenant mettre l'histoire sur fiche, c'est-à-dire ça devient toute une histoire que l'enfant a écrite.
Ouais, et il mémorise bien à cet âge-là en plus. Hein. Ouais. Merci beaucoup maîtresse Bertie. Voilà, ça peut démarrer comme ça aussi, l'écriture. Par une forme d'oralité.
Bah oui. Absolument.
Un message d'Elvis aussi qui est enseignant de français et latin à Kinshasa. Il nous dit avec les réseaux sociaux, les jeunes s'habituent aux messages courts. Ils s'ennuient devant un texte long. Ils n'arrivent pas à pondre une réflexion personnelle, à produire des écrits. Moi, je les encourage à rédiger un journal, mais le contenu de leurs écrits n'est pas toujours très intéressant, nous dit Elvis. Le sport, la danse, la famille, la musique, ce sont des thèmes qu'ils aiment. C'est la fausse bonne question à se poser. Est-ce que c'est intéressant ce qu'ils racontent ? Parce que sinon, on va nulle part, non ? Adam Aizé.
Bah oui, non, mais c'est très juste ce qu'il dit par rapport aux réseaux sociaux qu'on s'habitue, enfin pas seulement les jeunes, nous tous, des messages très très courts. Après, il y a des formes d'écriture qui sont par exemple les haïkus, poèmes de 3 lignes.
Exactement, on peut faire beaucoup de choses. Merci en tout cas à toutes les deux, Anna Mézé et Catiliana Bravo du Labo des Histoires, association qui a pour mission de promouvoir l'écriture créative auprès des jeunes de moins de 25 ans. Et merci à vous tous, les voisins, les voisines, pour vos appels. À suivre maintenant la parole aux enfants, justement, on en parlait chez 8 milliards de voisins avec un nouvel épisode du Monde des Enfants. Ils débattent aujourd'hui autour de la honte. Mais tout de suite, voici le collectif Berry Boys Club et Locaux en sélection sur la playlist du site RFI Musique.
Mon Dieu, l'amour m'a tout monté. 22h, j'appelle Stéphanie, elle n'est pas encore entrée. Pourquoi c'est toujours compliqué, mais pourquoi toujours m'ignorer? Je suis à ta disposition, mon bébé, ne le trouve pas
aimé. Pourquoi tu veux me faire comme Léa? Je t'attends, tu dis que c'est lié à ma ça. Tu as gagné, je joue le 7, tu joues le lion. Moi je t'accorde plusieurs fois, je suis fatigué, je me bats, baby, tu l'aimes.
tu me connais, tu connais.
Maintenant, maintenant, tu peux tant que tu m'enlèves si ça est.
Tu connais,
tu connais,
tu connais.
Tu connais,
tu connais.
Je t'aime mon bébé d'amour. Si tu me laisses, je serai trop peiné. Aïe, oui, mon amour.
Pourquoi tu veux me laisser aller lier? Ton humeur a beaucoup changé, j'ai beau dire.
Pourquoi tu décides de m'ignorer? Oh, oh, oh.
Ton cœur n'est là que pour tes meilleurs.
Sonne, sonne, moi là qui s'emballe. Ah, je suis témoin que tu connais, mais je suis venu devant ta porte pour que tu me pardonnes. Un dollar million depuis je te parle, mais tu ne veux pas m'entendre.
Pourquoi tu veux me laisser aller lier?
Pourquoi?
Ton humeur a beaucoup changé, j'ai beau dire.
Pourquoi tu décides de m'ignorer? Aller lier, dans mon cœur n'est là que pour t'aimer.
J'ai beau dire. C'est la loupée.
Tu connais, non?
Et maintenant, Le Monde des Enfants, réalisé par Charlie Dupio, un nouvel épisode. Elle tend aujourd'hui son micro à 10 enfants. Je vais tous les citer. Hein. Safa, Aléa, Irine, Axel, Cyrine, Alexis, Victoria, JN, Jasmine et Enzo. Ils ont 10 ans. Ils sont élèves en classe de CM2 à l'école Henri Martin à Colombes, en région parisienne. Et aujourd'hui, ils racontent les moments où leurs parents les font rougir de honte.
RFI.
Le Monde des Enfants.
On discute entre nous, entre enfants.
C'était la dernière fois, mon père il m'emmenait à l'école, mais en fait il s'était pas du tout bien habillé. Il avait un pantalon vert, il avait un manteau marron, un t-shirt blanc, des chaussures orange. Ça allait pas du tout bien ensemble, il me prenait par la main, il m'a fait un gros bisou devant tout le monde, il m'a serré dans ses bras fort. Mais je voulais pas, il me tenait par la main, il me tirait. C'était horrible.
Qu'est-ce qui était le plus gênant, sa tenue ou le fait qu'il t'embrasse devant tout le monde?
Les deux. Même un autre élève de la classe l'a vu et il a rigolé.
Et qu'est-ce que ça t'a fait de voir ce camarade rigoler?
La honte. Encore plus. La honte plus plus.
J'ai envie de juste pas être là, de disparaître. Et si on pouvait cliquer des doigts et de disparaître. Comme si c'était un peu la fin du monde. Parce que t'as l'impression que t'es ridiculisé. Ou après les autres ils vont se moquer de toi. Donc t'as juste envie de disparaître. Pour pas qu'on se moque de moi. Et pour pas qu'on dise oh c'était ton père ou ta mère. Oh là là et tout.
Moi je me fais tout petit en fait. Quand j'ai la honte et que je suis gênée, je me fais tout petit.
Comment tu fais pour te faire tout petit?
Bah je mets ma capuche et je regarde par terre.
J'ai jamais honte de mes parents.
Y a pas un jour où t'as une gênance?
Si, quand ils se font un bisou, quand mon père y rentre du travail.
Et pourquoi ça te gêne alors ça?
Bah parce qu'ils font à côté de nous. Et j'aimerais qu'ils fassent à côté. Autre part.
Bah par exemple le matin, quand ils disent bonjour, bah c'est un peu bizarre. Mais ils s'embrassent.
Ils s'embrassent sur la bouche?
Oui, ça me dégoûte. J'ai pas envie de regarder.
En fait, un jour qu'on était en compétition de gym, c'était les championnats de France, et en fait, ma mère, elle avait mis une grosse affiche où il y avait marqué « C'est bien ma puce, tu vas y arriver, Victoria !» avec le nom de mon club. Et tout le monde voyait cette affiche, c'était énorme. Du coup, voilà, ça m'a un peu gênée. Et elle faisait que crier, allez, c'est bien, tu vas y arriver.
Elle t'encourageait?
Oui, mais c'était un peu bizarre. Ma puce et tout, enfin, j'ai l'impression qu'elle croit que je suis petite. Après, j'ai dit à un homme, maman, c'était un peu gênant. Pourquoi t'as fait ça? Je t'avais dit, je voulais pas et tout et tout. J'ai montré que j'étais gênée, mais en fait, bah, j'étais heureuse parce que, déjà, j'étais heureuse qu'il y a ma mère déjà qui a pu venir à la compétition parce qu'il y a des filles, ben, ses parents, ils étaient pas venus à la compétition, du coup. En fait, c'est un peu les deux en un. À l'extérieur, enfin, à l'extérieur de moi, mon visage et tout, je montre que je suis un peu gênée, enfin, je suis un peu timide, je me dis, ah non, elle, je la connais pas, c'est pas ma maman.
Par exemple, tu baisses la tête, tu baisses le regard, tu rougis.
Mais, en fait, à l'intérieur de moi, je me dis, c'est cool qu'elle fait ça, ça veut dire qu'elle m'encourage dans ce que je fais et tout et tout.
Est-ce que c'est arrivé que vos parents vous mettent la honte, comme on dit, devant des amis ?
C'est quand ma mère, elle avait invité des invités, enfin ses amis chez nous. Elle m'a dit, Victoria, est-ce que t'as un amoureux ? T'as répondu non.
J'ai dit non. Est-ce qu'il y a des moments où vos parents, ils essayent d'utiliser des mots de jeunes ?
Oui, en fait, quand ma mère, elle vient... Elle dit, je vais faire ma skincare.
Je vais faire ma skincare.
Oui.
Alors, ça veut dire je vais faire un soin de mon visage, de ma peau.
Oui, voilà.
Vous trouvez que c'est un mot de jeune, ça ?
Oui, voilà. Parce que des fois, sur les réseaux, ils disent, je vais faire ma skincare et tout. Et bah, du coup, ma mère, elle dit ça maintenant. Parce qu'elle regarde trop TikTok. Mais ça fait bizarre vu que c'est un truc de jeune. Du coup, ça m'a gênée. Parce que normalement, les parents, c'est pas censé dire des mots de jeunes. Enfin, même si certains sont jeunes, hein. Je dis pas l'inverse.
En fait, j'avais dit à mon père, il voulait venir à une sortie à l'école. Mais lui, en fait, il prononce pas bien les mots en français. Par exemple, il dit « tu as là-bas », genre. Comme s'il disait « tu vas là-bas », mais il ne prononce pas comme ça.
Ton père est d'origine ?
Albanaise. Et il voulait venir et je lui ai dit non, papa, viens pas à la sortie. Et ensuite, elle a dit pourquoi je te fais honte. J'ai dit non, mais en fait, j'osais pas le dire que je voulais pas qu'il vienne à la sortie.
Mais parce que tu ne voulais pas qu'il te fasse honte en parlant avec un accent ?
C'est pas un accent, mais qu'il parle pas bien français, quoi. Parce que, en fait, j'ai peur que les autres ils se moquent. Et ensuite, ils me disent à chaque fois, toi, ton père, il parle pas bien français. Il a compris parce que ensuite, il a dit, t'as pas envie que je vienne juste parce que je parle pas français. Il a dit. J'ai eu peur qu'il soit énervé contre moi ensuite. Maintenant, ça va mieux, il sait mieux parler français, donc maintenant, il peut venir en sortir avec nous.
Oui, je comprends parce qu'au début, moi aussi, ma mère et mon père aussi, mon père, il parle pas très bien français. Ils sont tous les deux nés en Moldavie. Moi, ma mère, elle a un accent moldave, enfin russe du coup, voilà, c'est la même chose. Elle a un accent russe un peu, mais on la comprend quand elle parle. Mais juste parfois, au lieu de dire un placard, elle dit une placard. Elle dit une avion. Au début, j'avais un peu honte, mais après, je me suis dit, ça sert à rien d'avoir honte, je peux rien y faire, ils sont comme ça, donc voilà, c'est mes parents.
Le monde des enfants ou l'ambivalence des sentiments, tous les épisodes sont à retrouver en podcast. Ils sont réalisés par Charlie Dupiot et Maëlle Guyot sur l'appli RFI Pure Radio. Vous tapez tout simplement sur toutes les plateformes de téléchargement, sinon Le monde des enfants. Merci à l'équipe Juliette Brault, Delphine Cachin, Maëlle Guyot, Inès Emprin. Vous nous retrouvez aussi sur Instagram, sur notre chaîne WhatsApp. Et demain, 8 milliards de voisins, entreprendre en Afrique avec le retour du coach Didier Akwété qui conseille les jeunes diplômés qui se lancent dans l'entreprise. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 6 11 80 41 89. Et en deuxième partie d'émission, débat avec des chefs d'entreprise expérimentés. Quel avenir pour les PME agricoles en Afrique. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI. À demain les voisins et les voisines.